Déjà, ce premier verset en rapport avec le fait qu'on se trouve dans une période compliquée, une période difficile. Beaucoup sont découragés, il y a des tensions dans le monde entier. Et là, il nous est dit, les ténèbres recouvrent la terre, l'obscurité profonde enveloppe les peuples. Il y a d'autres versets qui nous disent que les dirigeants sont dans les ténèbres, qu'il y a comment dirais-je, une recrudescence du mal, de la peur, de l'angoisse. On voit que les dirigeants sont complètement perdus, qu'ils ne savent pas comment réagir aux problèmes. Et puis les peuples commencent à se soulever. Et puis il y a aussi une aggravation terrible de la pauvreté. Ça, on s'en rend peut-être moins compte ici en France, mais c'est en train de nous atteindre. Et les dégâts qui sont causés par la famine, par la pauvreté, et puis aussi les dégâts causés par le fait qu'on se soigne moins, tout est centré sur le Covid, et puis on se soigne moins par ailleurs. Tous ces dégâts, ils sont tellement supérieurs aux dégâts de la maladie elle-même. Et on est là, c'est vrai que moi, le premier, souvent, je suis un peu découragé, je me dis, mais on perd le moral. Mais là, il nous est dit, lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Il y a bien les ténèbres sur la terre, mais la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Et à la suite de cantiques qu'on a chantés, on a chanté, tu règnes sur tout l'univers. Ça m'a fait penser aussi dans Matthieu, chapitre 24. On va voir le Seigneur apparaître. Le Seigneur, il est bien vivant. Et il nous est dit au verset 27, tout comme l'éclair part de l'Orient et va jusqu'à l'Occident, ainsi sera le retour du Fils de l'homme. Le retour du Fils de l'homme, il est proche et il sera vu sur la terre entière. Il n'y a pas de limite entre l'Orient et l'Occident parce que ça se rejoint et la Terre est ronde. Et donc sur la Terre entière, si on a fait le tour, on aura cette vision du Seigneur qui vient. Il n'y a pas à écouter des faux docteurs ou des faux messies. On saura quand le Seigneur viendra. Mais on sait qu'on sera enlevé avant et que il viendra nous chercher, nous prendre et nous transformer dans la conformité de son corps de gloire. Et ça, c'est quelque chose qu'on attend, nous. Mais on peut aussi appeler le règne du Seigneur. Il nous le dit dans sa prière, dans les évangiles, que ton règne vienne, parce que la venue du Seigneur annoncera, donc quelque temps après, la venue de son règne. Et là, il nous est dit aussi, alors j'avais aussi ce verset dans l'Apocalypse, c'est juste après le verset qu'a lu Jean-Claude. Le voici au verset 7, chapitre 1, le voici, il vient avec les nuées, tout œil le verra, même ceux qui l'ont transpercé. Toutes les familles de la terre pleureront amèrement sur lui. Il y aura une prise de conscience brusque de qui il est, de ce qu'il a été, de ce qu'il est. Et de ce qu'on lui a fait aussi certainement. Ceux qui l'ont percé, ils réaliseront ce qu'ils ont fait. Le Seigneur a prié sur la croix, il a dit, mais pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Ouais, c'est sur ce moment, à ce moment-là, ceux qui le crucifiaient, il a eu cette prière. Mais ensuite, il y a eu l'évangile, il y a eu toute cette annonce pendant des siècles et des siècles. Et le Seigneur, beaucoup ne pourront pas dire ça, ne pourront pas dire, je ne savais pas. Mais on est responsable, nous aussi, d'annoncer l'Évangile, de parler du Seigneur. Il est dit, oui, Amen, je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu, celui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. Le Tout-Puissant. Je pensais aussi dans 2 Thessaloniciens, Faut que je retrouve. Voilà. Alors, c'est au chapitre 1er. Lorsqu'il viendra ce jour-là, il sera célébré parmi ses saints et admiré parmi tous ceux qui auront cru. C'est le verset 10. Ils seront admirés par tous ceux qui auront cru. Et après, il y a ce petit verset. Or, vous avez cru à notre témoignage. Voilà, c'est le souhait, comme on l'a rappelé, le souhait que tous les hommes soient sauvés. Et que ceux qui ont cru, ceux-là ne se lamenteront pas, ceux-là se réjouiront. Ils verront le Seigneur dans sa gloire. Je pensais aussi ce matin, je me disais, mais on a beaucoup évoqué le Seigneur dans son humiliation, dans son humilité, dans sa vie sur la terre. Et il a vu, il a compris, il a été celui qui a compris aussi toute la misère humaine, parce qu'il l'a vécu en direct. Et il n'est pas dépassé, il n'est pas étonné, il n'est pas dépassé par le fait qu'on a des souffrances. Toutes les souffrances humaines, il les a connues et bien au-delà. Et je pensais aussi à tous ceux qui sont éprouvés. Il y a la maladie qui frappe, là. Il y a Claude qui brusquement a reçu cette nouvelle qui était difficile, de ce cancer. Il y a Aristide qui est seul là, en France, loin de sa famille, qui est loin depuis des années, qui souffre de la solitude. Il y a d'autres personnes qui peuvent avoir des problèmes dans leur famille, des problèmes d'être obligés de se séparer, de se retrouver seul à élever des enfants, des problèmes de toutes sortes, par rapport au travail aussi. On pense à ceux qui sont touchés directement par l'interdiction d'ouvrir les commerces, les restaurants. On en a parmi nous. Et tant d'autres choses, parce qu'ils sont compliqués. Et on ne vit pas tous de la même façon le confinement. Certainement, pour certains, comme pour nous, c'est facile, c'est des moments de ressourcement plutôt. Et pour d'autres, c'est des moments très difficiles. Et puis, il y a ceux qui vivent dans des petits appartements, il y a des problèmes dans les couples de plus en plus. Parce que de vivre ensemble comme ça, c'est compliqué. Et tout ça, le Seigneur, il le comprend, il le sait. Et voilà, il est plus que dans la pitié, il est vraiment dans la communion avec ceux qui sont dans cette situation, parce qu'il a vécu des situations très, très difficiles. Il a su ce que c'était d'être haï, même homme de douleur. Il a su ce que c'était que la langueur, comme on l'a lu dans Ésaïe. Et ça a été plus que difficile pour lui. Mais en même temps, il est celui qui est remonté dans le ciel. Il est celui qui est maintenant là-haut, qui de là-haut dirige tout et ne laisse pas les siens. Il est près de nous, il nous encourage. Moi, je passe des fois par des moments difficiles et je vois que le Seigneur me donne des forces. Il faut charger, il n'y a plus de batterie. On a un problème de batterie, mais on va remettre. Ça passe encore, là, on m'entend ? Oui ?
Oui, très bien, oui.
Ah bon, ben, Sylvie va me remettre le chargeur. Voilà. Et alors, il y a un autre verset que je voulais lire aussi. Et hier, on a entendu quelque chose là-dessus et ça nous a aussi beaucoup encouragé. C'est dans Genèse au chapitre 9, au verset 13. Sylvie cherche une rallonge, excusez-moi.
C'est trop court.
Bon, ça y est, on a mis la recharge. Alors, dans Genèse, au chapitre 9, au verset 13. J'ai placé mon arc parmi les nuages. Il servira de signe et d'alliance, de l'alliance conclue entre moi et la terre. Quand j'aurai rassemblé des nuages au-dessus de la terre, l'arc apparaîtra parmi les nuages et je me souviendrai de mon alliance entre moi et vous, ainsi que tous les êtres vivants de toute espèce. Ça, c'est donc dans Genèse, c'est après le déluge. Dieu a mis son arc dans la nuée. Et cet arc, il est toujours là. Il a traversé les siècles, et quand il y a effectivement des nuages, de l'orage, eh bien, il y a l'arc qui apparaît. Et je me rappelle très bien que la dernière promenade qu'on avait fait en vélo avec Sylvie au mois de mars, on a été surpris par la pluie, justement. Et qu'est-ce qu'on a vu quand cette pluie s'est arrêtée, quand le soleil, c'était le soir, quand le soleil est ressorti, on a vu deux arcs-en-ciel magnifiques l'un derrière l'autre qui étaient complets, c'est ce qui est rare. Et c'était vraiment, on s'est arrêté un moment, on les a pris en photo, on a médité là-dessus. Et il y avait effectivement ce ciel noir et ces arcs-en-ciel. Et c'est un message que j'ai réalisé et compris cette nuit, en fait, alors que c'est passé pas beaucoup de temps. Et c'était vraiment juste avant le confinement, le premier confinement. Et vraiment, on ne se rendait pas compte, on ne savait pas ce qui allait se passer. On avait l'impression que c'était bon pour les Chinois, que c'était bon à la rigueur pour les Italiens, mais que nous, bien sûr, ça n'allait pas arriver jusqu'ici. Et puis, c'est arrivé pareil, très fort, et ça revient encore plus fort, là. Et il y a ces deux arcs. Le premier, ben, Dieu s'est occupé de nous. Il nous a fait sortir du confinement. On est reparti dans une vie à peu près normale. Et puis là, deuxième arc, j'y ai pensé cette nuit. J'ai dit, bon, deuxième fois, regardons l'arc, regardons dans la nuée ce que Dieu a préparé, son signe, ses promesses, cette promesse de nous bénir, qui pense à nous, qu'il n'est pas loin de sa création et de sa créature, mais qu'il est tout près et qu'il s'occupe de nous, qu'il pense à nous, qu'il nous aide, même si on est dans des situations très compliquées, très difficiles, comme beaucoup. Il y a beaucoup de deuil, beaucoup de... on est ensemble, là, c'était mercredi, il y avait la rétrospective encore de ce qui s'est passé à l'église Porte Ouverte à Mulhouse. Et franchement, on s'est dit, mais des chrétiens, des croyants qui ont été vraiment éprouvés. Et pourquoi? Et maintenant, le pasteur Samuel Perter-Schmidt, il a écrit son livre. Et à la suite de ça, comment il a tout ce qu'il a vécu, comment il s'en est sorti, comment Dieu l'a aidé. Et ce livre, ça va être un livre grand public qui a été édité la Maison de la Bible ou la CLC ou autre, mais voilà, par un éditeur beaucoup plus grand public, hein, le même éditeur qui écrit le livre, qui fait la revue Jésus, là. Et ce livre, il va être énormément diffusé et il va être pour la conversion certainement de milliers de personnes. Et Dieu, à travers des épreuves comme ça, eh bien, il manifeste son amour et sa grâce. Et autre chose dans cet arc-en-ciel, alors, qui est magnifique, c'est que les couleurs, il y a toutes les couleurs, il y a toutes les couleurs qui existent dans la nature et que Dieu a concentrées là. Elles sont pas mélangées, elles sont chacune à sa propre identité. Et ça, quelque part dans cet arc-en-ciel, il y a tous les siens, il y a tous ceux qu'il aime, et ils sont tous, ils ont tous leur beauté, leur couleur, individuellement, ils ne sont pas tous confondus. Et ça aussi, ça m'a rappelé, ça nous rappelle que Jésus nous connaît nom par nom, qu'on a chacun notre couleur, qu'on a chacun notre personnalité, qu'on a chacun notre beauté pour lui, qu'il ne mélange pas tout ça. mais que chacun garde sa personnalité. Comme aussi chaque église garde sa personnalité, chaque église est belle aux yeux du Seigneur, si on étend ça aux églises. Et chaque couleur dans l'arc-en-ciel est à côté de l'autre. Il n'y a aucune couleur qui se fait concurrence ou qui se débine, qui s'annule, qui annule l'autre à côté ou qui écrase l'autre. Mais chacun est côte à côte dans la beauté de l'ensemble. Et ça m'a fait penser à cette beauté de l'Église universelle, de l'Église de Christ, qui est belle à ses yeux, qui est dans toute sa plénitude aussi, parce que l'arc-en-ciel complet, il part d'en bas, il monte au ciel, il redescend en bas, et c'est une liaison entre le ciel et la terre, un peu comme dans ce beau cantique qu'on a chanté, où Jésus descend, il marche sur la terre, il va à la croix, il va au tombeau, il remonte. C'est un peu comme un cercle, un peu comme l'Orient et l'Occident, c'est le cercle autour de la terre, un peu comme... quand il nous est dit aussi que autant que l'Orient est éloigné de l'Occident, nos péchés sont éloignés et on peut toujours courir et les rechercher, ben, on ne les rattrapera pas, nos péchés, parce que Dieu les a éloignés suffisamment pour qu'ils disparaissent. Voilà, j'avais un peu tout ça. Il y avait aussi cette notion, j'ai aussi pensé à cette notion du soleil. Du soleil qui éclaire. En fait, le soleil, si ça nous fait penser à Dieu, quelque part, on ne peut pas voir directement sa gloire pour l'instant avec nos yeux humains. Hein, on voit bien que l'apôtre Paul, sur le chemin de Damas, ben, quand il a vu cette gloire, il ne voyait plus après, ça l'a aveuglé. Dieu lui a mis des écailles sur les yeux, il n'est pas été complètement aveugle, mais il a mis du temps à retrouver la vue. Moïse ne pouvait pas voir aussi le visage, ça ne charge pas. Elle ne marche pas, cette prise-ci. Bon, on a de nouveau batterie faible, 5%, alors je suis désolé. C'est pire en pire.
On t'entend toujours.
On m'entend encore ?
On ne voit plus, mais on t'entend.
Bon, ça va revenir. Je ne sais plus où j'en étais.
Lumière du soleil.
Oui, le soleil, voilà. Le soleil, quand on ne peut pas directement le regarder, mais il éclaire. Il éclaire ce soleil. Et il éclaire les fleurs dans les champs. Et vous voyez, j'ai pensé à toutes ces fleurs qui sont dans les champs, qui ont chacune sa couleur aussi. Chacune sa personnalité, chacune sa beauté. Et voilà, c'est un petit peu, il y en a qui sont plus fragiles que d'autres, il y en a qui sont d'une couleur, d'une autre. Il y a toutes les couleurs aussi de l'arc-en-ciel dans les fleurs. Et chacun, chaque église, et chacun, même individuellement, on est comme des fleurs pour Jésus. Il nous voit dans cette beauté, cette délicatesse aussi, cette fragilité. Et il nous aime, il nous respecte. Et à nous aussi d'aimer, de respecter tous nos frères et sœurs de toutes les dénominations. L'Église, elle est beaucoup plus grande que ce qu'on peut imaginer. Elle est très belle aux yeux du Seigneur, qui nous aide à la voir comme ça aussi, et à nous respecter les uns les autres et à nous aimer les uns les autres. Et on ira vers le ciel avec... plus de force, plus d'élan, si on est tous unis, réalisant qu'on est le corps de Christ sur la terre. Et on en a besoin en ce moment, on a besoin que l'Esprit Saint puisse s'exprimer, que l'Esprit Saint puisse témoigner, que l'Esprit Saint puisse faire que l'Église soit prête quand le Seigneur va venir, parce que c'est très proche. Voilà, je vais m'arrêter là. Je vous remercie de m'avoir